à l'antenne du FM 93.1, 92.1. Voici vos informations.
Informations en ce lundi 25 mars. Que doit-on faire avec le contenu de nos bacs noirs? Les élus municipaux de la MRC de Témiscamingue se sont réunis en lac à l'épaule samedi pour en discuter. Claire Bolduc, préfète de la MRC de Témiscamingue, explique.
C'est un exercice qu'on avait convenu de mener dans l'année qui vient, dans l'année en cours, suite à la décision qu'on a dû prendre de ne pas aller avec la proposition qui avait été déposée à la MRC pour un incinérateur. Donc, de lac à l'épaule va nous servir à vraiment camper sur quels enjeux on doit travailler, quels sont les atouts, les avantages, les inconvénients, les réalités du territoire avec lesquelles on doit composer quand on réfléchit à nos matières résiduelles ultimes, le bac noir. De quelle manière on doit envisager la suite des choses?
Pour animer les discussions et susciter les réflexions, on a fait appel à M. Marc Olivier, chimiste spécialisé en environnement et en gestion des matières dangereuses. Il est depuis plusieurs années le répondant des dossiers matières résiduelles au Conseil régional de l'environnement de la Montérégie.
Est-ce qu'il y a des choses à faire maintenant avec le contenu du bac noir? Est-ce qu'on peut le gérer d'une façon qui est le mieux possible, le plus simple possible? Il faut qu'on travaille davantage à diminuer la taille du bac noir. Puis si on doit effectivement trouver des lieux, des façons de faire, des technologies pour le contenu du bac noir, ben il faudrait qu'on soit capable de faire des choses sur notre territoire. Les syndromes, pas dans ma cour, quand on envoie des matières se travailler ailleurs, c'est comme si on dit « Oh, moi je m'en occuperai pas, d'autres vont s'en occuper. » Mais c'est notre responsabilité de bien savoir ce que l'on fait, puis de bien voir est-ce qu'on est capable sur notre territoire de faire pour le mieux pour nous autres et si, d'occasion, on est capable de créer des formes intéressantes, des formes économiques qui permettraient de faire un développement complémentaire sur notre territoire, mais ça serait ça.
Le maire de la ville de Témiscamingue, M. Pierre Gingras, est l'un des élus qui a participé au lac à l'épaule.
On a eu un bon exposé. Il démontre c'est quoi le statu quo, ce qui est pratiquement pas possible, mais des solutions. Est-ce qu'on y va avec un incinérateur? Est-ce qu'on y va avec un endroit là, pour un LED qui appelle là, pour entreposer tout ça? Et donc, c'est quoi qu'on veut pour le futur? Oui, c'était une très bonne information. On avait besoin. Ça fait plusieurs années que le dossier chemine, mais là, il y a beaucoup de nouveaux maires. Donc, on doit prendre des décisions pour le futur, puis on doit être mieux éclairé. Je pense que tout le monde a cette seule rencontre.
La communauté Anishinaabe de Lac-Simon réclame la démission du président de Hockey Abitibi-Témiscamingue, M. Christian Beaulé. La prise de position survient à la suite de la décision de l'organisation de refuser à une équipe de hockey M15 de Val-d'Or de participer aux championnats régionaux qui se sont tenus en fin de semaine. Il est reproché à la formation de Val-d'Or de ne pas avoir terminé un match en janvier et d'avoir annulé la partie suivante dans un délai de moins de 24 heures. Le règlement stipule qu'il faut aviser 24 heures à l'avance. Monsieur Christian Beaulé nous explique le pourquoi de cette décision.
La décision s'est prise là, selon quand même plusieurs facteurs, parce qu'on a quand même considéré là, plusieurs éléments. Entre autres, on s'est appuyé sur un de nos règlements de la Ligue qui est quand même pas très restrictif là, au niveau de l'accès là, aux championnats régionaux. Dans le fond, le règlement, tout ce qu'il mentionne, c'est que les parties de saison régulière doivent être jouées au moment où le calendrier termine. L'équipe qui, pour peu importe la raison, ne pouvait pas se présenter à son match et a dû l'annuler, tout ce qu'elle avait à faire, c'était de le réciduler ou de tenter de le réciduler entre la fin janvier et la mi-mars et l'équipe aurait été admissible au championnat.
Ce règlement a été instauré pour une bonne raison, selon M. Beaulé.
Ce règlement-là, il origine de quelques années, parce qu'avant, il n'y avait pas cette restriction-là. Donc, les matchs se faisaient annuler à tout bout de champ. Toutes les raisons étaient bonnes pour annuler un match. Puis, on s'entend que, généralement, les matchs qui étaient annulés, c'était les matchs les plus loin. Donc, les matchs qui étaient le plus souvent annulés, c'était les matchs à Matagami, à Quévillon et au Témiscamingue, parce que les équipes trouvaient toujours une bonne raison de ne pas se déplacer. Donc, on est obligé de mettre un règlement en ce sens-là pour que, justement, les parties de notre calendrier soit joué. Évidemment, on a inclus toutes les équipes dans ce règlement-là, puis il faut que toutes les équipes soient traitées sur le même pied.
Christian Beaulé tient à préciser que les M15 Apollo Rouge de Val-d'Or ne sont pas les seuls dans cette situation.
Depuis une semaine, on parle uniquement de l'équipe M15A de Val-d'Or qui a été exclue pour ce motif-là. Mais il y a une deuxième équipe qui a été exclue pour les mêmes raisons. C'est une équipe du Témiscamingue qui a pas joué tous ses matchs de calendrier et que le match n'a pas été recidulé. Donc, on a une équipe ici au Témiscamingue qui est dans la même situation que l'équipe M15A de Val-d'Or.
Le regroupement de femmes de l'Abitibi-Témiscamingue a lancé la semaine dernière une campagne de mobilisation régionale sous le thème « Un toit pour toutes ». Ariane Mignot, responsable à la vie associative et à la mobilisation au regroupement de femmes de l'Abitibi-Témiscamingue, nous en parle.
C'est une campagne de mobilisation régionale qui est l'initiative d'un comité du RFAT. Donc, on a travaillé avec plusieurs groupes de femmes de la région. Puis le thème, bon, on sait qu'il se passe une grande crise du logement depuis plusieurs années qui est assez généralisée, mais on voulait quand même représenter les enjeux particuliers qui touchent les femmes, en fait, dans ces crises-là, parce que il y a des impacts, des conséquences qui les touchent davantage.
Madame Mignot nous donne des exemples des impacts de la crise du logement pour certaines femmes.
Il y a un écart, en fait, de revenus assez marqué en région. On parle de femmes qui atteignent en moyenne 60 % du revenu des hommes. Fait que c'est assez considérable. Puis, on sait qu'une capacité financière moins grande égale un peu plus de complications, peut-être, pour trouver des logements qui répondent à leurs besoins.
Les femmes en situation de violence conjugale sont particulièrement affectées par la crise.
Il y a beaucoup moins de loyers. On parle de 1 % puis dans plusieurs villes, 0 quelques % de taux d'inoccupation. Mais dans un cas de violence conjugale, encore plus difficile de sortir de ces situations-là.
L'objectif principal de cette campagne est de mobiliser les élus.
C'est sûr que notre majeur dans cette campagne de mobilisation-là, c'est que les élus prennent action pour contrer en fait la crise du logement là, au moyen là, de politiques ou de stratégies qui pourraient venir en aide aux femmes selon leurs enjeux bien particuliers.
Et la cinéaste témiscamienne Gabrielle Gingras a remporté le prix du meilleur court-métrage enfant à la 41e édition du Carrousel international du film de Rimouski pour son court-métrage « Le temps des orages ».
Le Carrousel, c'est un festival à Rimouski, en fait, qui est destiné à la jeunesse. Ben, moi, j'ai gagné la catégorie enfant. C'est sûr que je suis très reconnaissante. C'est vraiment un beau prix pour le film. C'est mon premier film à la sortie de l'école. J'ai fait ça avec peu de moyens, mais beaucoup d'amour et beaucoup de soutien de plusieurs personnes. Donc, c'est sûr que c'est toujours des belles nouvelles de recevoir des prix. Ce prix-là, ben, ça me touche beaucoup parce que c'est des enfants. Fait que ça me touche beaucoup parce que je sais que les enfants sont très purs et très naturels dans leur réaction, dans leur appréciation.
Elle nous partage les prochaines étapes du film et ses prochains projets.
Pour la première fois à l'international en Suède, tout récemment, la semaine passée. Malheureusement, j'ai pas pu me déplacer, mais ça me fait plaisir de savoir qu'il y a des enfants ailleurs dans le monde qui ont vu mon film. Sinon, au Festival Regard qui se passe à Saguenay. Ça aussi, c'est vraiment une très, très belle sélection. On est vraiment très contents. C'est un beau festival de court-métrage au Québec. Sinon, il y a un autre festival qui s'appelle Jeunesse tout court en France, que le festival a été sélectionné. C'est plus tard cet été que le festival va se dire. On reçoit des belles nouvelles. On espère en recevoir d'autres. Je suis présentement en développement d'un court-métrage qui, pour l'instant, s'intitule Miss Météo, qui est encore un court-métrage jeunesse que je vais créer avec une productrice qui s'appelle Irène Besson de chez Arrêt-Essai. Fait qu'on est en train de développer ça, puis on essaie d'avoir du financement pour la suite, mais ça prend toujours un peu de temps. Fait qu'on est juste en train de le développer. Sinon, moi, personnellement, je travaille comme assistante à la réalisation, fait que je travaille sur des projets divers au courant de l'année.
Ça complète votre bulletin d'information régionale. Vous écoutez CKVM, la voix du Témiscamingue.